Chapitre 14. 96 000 sous de sous. Et tout cela pour le trésor, pour voir le trésor plus vite. Nous sommes de bonnes gens en Basse-Bretagne, mais nous aimons diantrement l'argent. Il y a chez nous une chanson à l'air plaintif et doux, jamais on ne l'oublie quand on l'a entendue une fois. La mélodie en est si large et si pure que les étrangers se disent en l'écoutant, c'est la voix d'un noble pays. Les étrangers se disent cela d'autant mieux qu'ils ne comprennent point le sens des paroles adaptées à cet air national. C'est une poésie en langue gaélique. Elle doit être bien attendrissante, cette poésie, car j'ai vu 100 fois, à Paris et ailleurs, les soldats bretons pleurer en l'écoutant, absolument comme des Suisses exilés fondent en larmes au son de leur fameux « Ranz des vaches ». Les gens de France commencent à fredonner ce chant merveilleux qu'ils appellent l'Ananigus, en dénaturant un peu le début du premier vers celtique. Sous le mystère de ce langage inconnu, ils devinent bien la plainte d'amour ou le cri qui appelle la patrie. Je vais vous révéler un secret. Le mot qui mouille les yeux de nos exilés de Bretagne, écoutant le soupir lointain du pays, ce n'est ni patrie ni amour, c'est argent. Dès le premier couplet de l'Ananigus, on voit un jeune gars entre deux femmes, dont l'une est riche et l'autre pauvre. C'est le jeune gars qui parle et il dit « La jeune est bien jolie, la vieille a de l'argent, la vieille est ma douce amie, ah oui vraiment !» Et la fin vaut le commencement, et le milieu est digne des deux bouts. Moi, je trouve qu'en écoutant cela, les fils de la fière armorique ont 100 fois raison de pleurer, de honte. Mais après tout, l'argent est si rare dans cette pauvre contrée, l'homme est fait ainsi, son rêve va toujours vers ce qu'il n'a pas. J'ai vu ces amoureux de l'argent, à l'heure de la passion et du dévouement, se déchirer stoïquement le cœur et prodiguer à pleine main l'épargne amassée sou à sou. Oui, je l'ai vu, mais c'est égal, ce rance des écus déshonore la Bretagne. J'eus beaucoup de peine à calmer l'exaltation délirante de Joson Menou. Comme il arrive toujours, la gymnastique désordonnée à laquelle il se livrait avait déterminé en lui une belle et bonne crise d'ivresse. Tout Breton ivre insulte les Anglais d'abord et les Français ensuite. C'est dans le sang. Joson défia les Anglais. Il en demanda 20, 30, 500, 80 000 pour lui barrer la route. Et quand il fut revenu à son appel, il passa au travers en moulinant du bâton comme un possédé. Après quoi, mettant à profit les connaissances historiques que mon oncle le Billan épandait autour de lui, Joson évoqua la duchesse Anne. Elle vint comme les Anglais, et Joson la battit plus dur que plâtre, en prévenant les Français qu'ils pouvaient, s'ils le voulaient, arriver au secours de la coquine. Les galops, Français, ne se firent pas prier. Joson en compta plus de 100 000 et les tua tous en les traitant de cochonailles. Quand nous eûmes dépassé les derniers arbres de la forêt, je lui dis « Maintenant qu'il ne reste ni saxo ni gallo, marche droit, mon bonhomme, et fais honneur à la paroisse de Guidel. » Ce commandement fut pris au pied de la lettre par Joson, qui passa ses deux mains dans ses longs cheveux mouillés pour les rejeter en arrière. Il modéra en même temps son allure jusqu'à prendre un trot digne et régulier. Par intervalle, il houpait bien encore un peu, mais c'était pour faire honneur à la paroisse de Guidel. Et tous les 100 pas, il se retournait, demandant « C'est-il bien vrai, tout de même, que vous l'avez avec vous ?» Sous-entendu le trésor. Je répondais affirmativement. « Et quand sait-il qu'on va le visager à la fin des fins ?» À Vitré. Ça va bien. Une fois, il ajouta « Si c'est que nous rencontrons une autre Sainte-Anne d'ici à Paris, je lui en brûlerai un gros de 10 sous, je ne mens pas. » La brune tombait quand nous fîmes notre entrée dans la ville de Vitré, qui était déjà moisie du temps du déluge. Je ne sais pas pourquoi, en Bretagne, le déluge ne monta pas bien haut. Vitré est située sur une montagne. Madame la marquise de Sévigné explique quelque part que l'eau s'arrêta au bas des murailles de la citadelle et que Vitré, perdant cette occasion unique de nettoyage, devint le refuge de toutes les petites bêtes de l'univers. Nous savons qu'il en restait à Rennes. Les grands peintres tirent plus d'effet de la souquenille d'un mendiant que du velours tout neuf qui drape les épaules d'un gentilhomme. C'est la revanche de la vieillesse et de la misère. Je ne connais pas de tableau plus frappant au monde que Vitré, relique féodale, ameutant au soleil couchant la cohue de ses antiques masures, qui grimpe tumultueusement à l'assaut de sa montée. Le château, ce noir géant, dont les créneaux vomissent des cascades de gueules de loups et de giroflées, parle si énergiquement des siècles passés que l'on croirait voir un revenant de la croisade, et l'aiguille dentelée de l'église jaillissant parmi les sombres toitures semble seule pâle au milieu des myriades de rubis que le dernier regard du jour allume à tous les petits carreaux de la ville. Car Vitré s'éclaire encore à travers des myriades de menus morceaux de verre reliés avec du plomb. Les maisons de Vitré ont toutes des porches vermoulus sous lesquels les ouvrières habiles gagnent 2,5 sous par jour à tricoter des bas de laine. Le prix d'une paire de veaux y est de 3 livres. En quittant Vitré, on n'a que 2 lieues à faire pour entrer en France, où Madame du Barry dépense 40 pistoles à chacun de ses déjeuners. Joson Menou mit ses sabots à ses pieds pour monter la grande rue dont j'ai oublié le nom. Il portait le bâton sur l'épaule. On voyait bien que c'était un conquérant. Comme il me dit lui-même, c'était la 3e fois qu'il chaussait ses sabots depuis 12 ans qu'il les avait. Je choisis une bonne petite auberge, à mi-côte, sur la place de l'église. Je commandai des draps propres que je fis étendre sous mes yeux et je traçai moi-même le menu de mon souper. Mon opinion était que j'avais bien gagné ma grasse nuit. Pendant que mon rôti cuisait, je m'enfermai avec Joson pour accomplir ma promesse. Il s'agissait de lui montrer le trésor. C'était dans une chambre étroite et haute d'étage, qui formait à elle seule l'intérieur d'une tourelle. On nous avait donné une chandelle de résine qui pétillait plus qu'elle n'éclairait. À travers le réseau de plomb d'une longue fenêtre ogive en forme de meurtrière, on apercevait encore les lueurs crépusculaires. L'instant était assurément solennel. Je tirai de ma poche le boursicot de cuir. Joson était debout auprès de la table, l'œil écarquillé, les poings fermés convulsivement. J'ai vu des gens qui se tenaient ainsi à 4 au moment de subir une opération chirurgicale. Joson attendait. Je n'essaierai même pas d'exprimer à quel point il était ému. J'entendais les battements de son cœur dans sa poitrine. Ses narines gonflées ne pouvaient ouvrir un passage assez large à la tempête de son souffle. Je renversai le boursicot sur la table, et les 200 louis d'or s'en échappèrent à la fois, rendant une musique jolie. Joson éternua une explosion. Mais ce fut tout. J'avais imaginé de bien autres transports. « Quoique ça, me dit-il, monsieur le chevalier, ce n'est pas le bout du monde. Combien qu'il y a ?» Et quand j'eus chiffré la somme, « Combien ça fait de gros écus ?»« 800 pièces de 6 livres. »« Matin, gronda Joson. » Et des petits écus, 1600. Nom de nom, et des pièces de 30 sous, 3200. Ventre bleu, et des piécettes de 15 sous, 6400. Tonnerre de Landerneau, tout de même, je voudrais voir ça en piécettes de 15 sous. Mais vous ne sauriez me compter combien que ça donne en sous-dessous, monsieur le chevalier, c'est sûr et certain. Je répondis après avoir calculé sur mes doigts, « Juste 96 000. » Joson se mit à genoux pour être plus à son aise. « Alors, dit-il, fils de toute la paroisse, c'est pas de vous que je parle. Je vais aller les changer pour voir le tas. Tu ne pourrais pas emporter la moitié, mon pauvre Joson. » Il reprit l'air qu'il avait en tuant les Anglais et les Français sur la route. « Qui ça, moi ? Failli chien, je ne parle point de vous. N'y a point assez de sous dans toute la terre pour me dépasser ma charge, 20 petits bon Dieu, aussi vrai comme mon baptême. Mais vous avez raison tout de même, rapport à ce que je n'aimerais point les traîner comme ça jusqu'à Paris. Qu'est-ce que tu veux là-dessus, Joson ? Demandai-je. Il réfléchit un instant, et dit avec défiance « Donnerez-vous ben un gros écu, monsieur le chevalier ? Ce n'est pas assez, prends 10 louis. » Joson secoua la tête lentement et se gratta l'oreille. « Quoi que ça ? » murmura-t-il. « J'ai bien confiance en vous, monsieur le chevalier. Mais dame, l'argent est l'argent, et c'est blanc, n'y a pas à dire non. » Je pris au fond de ma poche le second écu de 6 livres de mon oncle le Bihan, et ce qui me restait du premier. Les yeux de Joson brillèrent. Quand je lui mis le tout dans la main, il bondit sur ses pieds et se prit à danser tout autour de la table. Évidemment, il ne croyait pas alors cet avare bas-breton. La servante de l'auberge et un marmiton entraient, apportant mon souper qui embaumait la bonne gargote. Le marmiton me dit « Bonjour, notre maître, et chez vous ?» La servante, qui était une jolie courtaude de Vitriaz, aux larges pommettes, au nez retroussé, me demanda dès le seuil « C'est-il vous, Canon Kéramour, de votre nom que vous vous nommez ?» Je répondis affirmativement, étonné que quelqu'un eût pu lui dire mon nom si loin de chez nous. « Et c'est-il vrai que vous êtes un chevalier ?»«
Ah, dame, observa Joson, de ce côté-ci, on ne parle point un bain du tout. »«
Alors, dit la Vitriaz, quand j'eus affirmé mon titre, v'là une écriture qui est pour vous, je ne mens pas, qu'on m'a dit de vous la donner donnant. » Elle tira de dessous la piécette de son tablier un gentil billet qu'elle mit sur la table. Ma surprise redoublait. Le marmiton me dit avec respect, mais d'une voix qui cassait les vitres, « J'ai apporté le pichet de cidre, mais si c'est que vous êtes un chevalier, vous boirez ben une pinte de vin, faut pas mentir. »